tu ne veux pas te dire où se trouve le QG des féministas?
Oui, évidemment. Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain les FN.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
À l'hospice de la Salpêtrière, ancien arsenal construit sous Louis XIV, les folles sont isolées dans le quartier spécial des incurables et enchaînées. On les abandonne ainsi à demi-nues, au milieu de leurs immondices. À travers les barreaux d'une grille, on leur distribue une nourriture faite de soupe froide et de déchets. Les hystériques soignent leurs compagnes en simulant à merveille leur maladie. Elles sont possédées par la manie de mettre en scène la souffrance des autres. Elles ont le génie du rire, des tragédies et du sanglot. Elles enseignent la folie du monde, la misère du peuple. Connue depuis l'Antiquité, l'hystérie apparaît aux yeux des savants de la fin du siècle comme une maladie de l'utérus qui saisit le corps des femmes. Pour comprendre la nature des convulsions, les médecins plongent les patients dans un état de somnambulisme ou de sommeil éveillé que l'on appelle hypnose.
C'est peut-être une candidate pour votre traitement expérimental.
Freud vient à Paris pour suivre les leçons cliniques de Jean-Martin Charcot, le plus grand neurologue de l'époque. Né en 1825 dans une famille modeste, il exerce ses talents à l'hospice de la Salpêtrière. On le surnomme le Napoléon des hystériques. Charcot endort les femmes de la Salpêtrière et fait disparaître provisoirement paralysie et contracture. Il utilise hypnotisme pour démontrer que l'hystérie est une névrose fonctionnelle sans lien avec l'utérus. Aussi refuse-t-il de parler publiquement des causes génitales. Fasciné par le théâtre de l'hystérie, Freud remarque que la relation entre le médecin et ses patientes ressemble à une histoire d'amour. Il est ébloui par les leçons de Charcot. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L'hystérie. Telle est la maladie dont Freud s'empare à l'orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l'angoisse, l'oubli, le souvenir, le temps, le déchirement. Condamnées à devenir des épouses rigides à l'image de leur mère, ces jeunes femmes de la bonne société viennoise aspirent secrètement à une autre vie. Mais personne ne les écoute. Incapables de faire face à leur destin, elles tombent malades. L'hystérie est le langage de ce désir échoué au seuil de la raison. À la Salpêtrière, le sexe des femmes parle à l'aide de convulsions. Aucune expérience de laboratoire ne saurait en venir à bout.
Vous aurez donc compris le sujet de ce charmant samedi matin. Peut-être étiez-vous en train de boire paisiblement votre café ? Eh bien, comptez sur nous pour avoir envie d'y rajouter une bonne rasade de furie. Et d'abord, un peu de musique pour vous motiver.
This recording is volume 3.
Beast.
back several years with us and listen to this closing announcement from the Lux Radio Playhouse as it was made by actor Joseph Cotten.
Give you certain sounds to identify, and now.
L'hystérie a aujourd'hui disparu du langage médical, bien qu'ayant fait couler beaucoup d'encre au XIXe siècle. À travers cet exemple, nous voulions montrer comment une société a pu traiter ses folles, ou des folles traiter leur société. On vous l'avait dit, c'est très philosophique ce matin. Rappelons que l'hystérie est une névrose résultant d'un conflit psychique, pouvant déboucher sur différentes manifestations, allant de troubles bénins, palpitations, douleurs ovariennes, gorge nouée, à des états de transe possiblement violents ou érotiques, en passant par des phases de tétanie ou de convulsions de type épileptique. Cette affection a disparu des nouvelles classifications du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et de la classification internationale des maladies, du fait de sa connotation psychanalytique, à la faveur des catégories « troubles de la personnalité ». La classification de l'hystérie, indissociable de sa représentation sociale, a beaucoup évolué en fonction des époques et des modes. Elle reste tout de même mystérieuse et controversée.
Rappelons également que l'hystérie n'est pas l'apanage des femmes, même si elles en sont beaucoup plus atteintes que les hommes. L'identification entre l'hystérie et la femme tient en partie à la confusion qui en a été faite depuis l'Antiquité, l'origine du mot hystérie étant utera, autrement dit matrice. Platon décrivait ainsi ses causes et ses manifestations d'antimée. L'utérus est un animal qui désire engendrer des enfants. Lorsqu'il demeure stérile trop longtemps après la puberté, il devient inquiet et s'avançant à travers le corps et coupant le passage à l'air, il gêne la respiration, provoque de grandes souffrances et toute espèce de maladie. Des études sur l'hystérie ont eu lieu dès le début du XVIIe siècle, mais c'est à Paris, dans les services du professeur Jean-Martin Charcot, pionnier de la neurologie, que Freud a fait de l'hystérie un sujet d'étude privilégié en 1885. Il admirait Charcot. Il était impressionné par ses séances d'hypnose avec des hystériques à l'hôpital de la Salpêtrière. Charcot déclare que les symptômes hystériques sont dus à un choc traumatique, provoquant une dissociation de la conscience et dont le souvenir du fait même reste inconscient ou subconscient. Il pose là les bases de la théorie traumatico-dissociative des névroses qui sera développée par Pierre Janet, Joseph Breuer et Sigmund Freud. On peut souligner les rapports peut-être ambigus du professeur Charcot avec une de ses patientes hystériques à la Salpêtrière à Paris en 1875, Augustine. Si ambiguïté il y a, c'est dans l'approche thérapeutique pratiquée à l'époque toute expérimentale. Très influencée par la naissance de technologies nouvelles, comme celle consistant à exhiber les patients devant un parterre de visiteurs chaque semaine, en déclenchant voire en reconstituant les crises les plus spectaculaires, on n'est pas loin des exhibitions de monstres de foire, très pratiquées à l'époque. Charcot faisait appel à tout un attirail pour ses thérapies, tel ce curieux compresseur ovarien, une ceinture qui appuyait sur les ovaires afin de stopper les crises. L'électricité était mise à contribution ainsi que l'hypnose, principal apport de Charcot à Freud, dans ses recherches initiales qui conduiront à la psychanalyse. À travers les procédures cliniques et expérimentales, l'hypnose et les présentations de malades en crise, les célèbres leçons du mardi, on découvre une théâtralité stupéfiante, excessive du corps hystérique. On la découvre à travers le début de la photographie médicale, images photographiques quasi artistiques qui ne sont restées, celles des publications, au regard du rarissime de l'iconographie photographique de la Salpêtrière. L'analyse de ces images révèle aussi l'acte de mise en scène dont les hystériques furent l'objet de la part des médecins. Freud fut présent durant cette période et son témoignage devint la recherche d'une écoute toute nouvelle de l'hystérie, différent de ce spectacle de l'hystérie que Charcot mettait en scène. Augustine demeure la plus célèbre patiente de Charcot. Arrivée à l'âge de 14 ans à la Salpêtrière, elle fut son modèle préféré pour le caractère régulier de ses manifestations, non moins impressionnantes, mais également sa beauté. Le destin d'Augustine, dont le véritable nom est Louise, comme si on lui avait changé à l'image d'une prostituée, est des plus romanesques. Lasse d'être exhibée et de devoir feindre l'hystérie, selon Charcot, on peut défaire et refaire à volonté et on peut observer tout à loisir. Elle s'enfuit de la Salpêtrière déguisée en homme pour ne plus jamais faire reparler d'elle. Plusieurs films ont d'ailleurs été récemment tournés sur elle. En 1893, ayant poursuivi et approfondi à leur manière les recherches sur l'hystérie, Freud et Breuer, qui étaient collègues et amis, publient leurs études où ils analysent la causalité psychotraumatique et le traitement par la méthode cathartique ou l'hypnose. Freud élabore les notions de psychonévrose, de défense et de libido. Deux ans plus tard, seront publiées les études sur l'hystérie. Breuer n'était pas tout à fait d'accord avec Freud sur le fait que toutes les hystériques avaient subi un traumatisme sexuel. La plupart du temps, une séduction d'adultes ou, dans nos termes actuels, un abus sexuel. Il partageait par contre l'idée qu'un traumatisme vécu était à l'origine des troubles hystériques. Un petit poème de Baudelaire, La femme sauvage et la petite maîtresse. Vraiment, ma chère, vous me fatiguez sans mesure et sans pitié. On dirait, à vous entendre soupirer, que vous souffrez plus que les glaneuses sexagénaires et que les vieilles mendiantes qui ramassent des croûtes de pain à la porte des cabarets. Si au moins vos soupirs exprimaient le remords, ils vous feraient quelque honneur, mais ils ne traduisent que la satiété du bien-être et l'accablement du repos. Et puis, vous ne cessez de vous répandre en paroles inutiles. « Aimez-moi bien, j'en ai tant besoin, consolez-moi par-ci, caressez-moi par-là. » Tenez, je vais essayer de vous guérir. Nous en trouverons peut-être le moyen pour deux sols au milieu d'une fête et sans aller bien loin. Considérons, je vous en prie, cette solide cage de fer derrière laquelle s'agite, hurlant comme un damné, secouant les barreaux comme un orang-outan exaspéré par l'exil, imitant dans la perfection tantôt les bonds circulaires du tigre, tantôt les dandinements stupides de l'ours blanc, ce monstre poilu dont la forme imite assez vaguement la vôtre. Ce monstre est un des animaux que l'on appelle généralement « mon ange », c'est-à-dire une femme. L'autre monstre, celui qui crie à tue-tête un bâton à la main, est un mari. Il a enchaîné sa femme légitime comme une bête et il la montre dans les faubourgs les jours de foire, avec permission des magistrats, cela va sans dire. Faites bien attention. Voyez avec quelle voracité non simulée peut-être, elle déchire des lapins vivants et des volailles piaillantes qui lui jettent son cornac. Allons, dit-il, il ne faut pas manger tout son bien en un jour. Et, sur cette sage parole, il lui arrache cruellement la proie dont les boyaux dévidés restent un instant accrochés aux dents de la bête féroce, de la femme, je veux dire. Allons, un bon coup de bâton pour la calmer, car elle darde des yeux terribles de convoitise sur la nourriture enlevée. Grand Dieu, le bâton n'est pas un bâton de comédie. Avez-vous entendu résonner la chair malgré le poil postiche ? Aussi les yeux lui sortent maintenant de la tête. Elle hurle plus naturellement. Dans sa rage, elle étincelle tout entière comme le fer combat. Telles sont les mœurs conjugaux de ceux descendants d'Ève et d'Adam. Ces œuvres de vos mains, ô mon Dieu, cette femme est incontestablement malheureuse, quoiqu'après tout, peut-être, les jouissances titillantes de la gloire ne lui soient pas inconnues. Il y a des malheurs plus irrémédiables et sans compensation. Mais dans le monde où elle a été jetée, elle n'a jamais pu croire que la femme méritait une autre destinée. Maintenant, à nous deux, chères précieuses, à voir les enfers dont le monde est peuplé, que vous voulez que je pense de votre joli enfer. Vous qui ne reposez que sur des étoffes aussi douces que votre peau, qui ne mangez que de la viande cuite et pour qui un domestique habile prend soin de découper les morceaux. Et que peuvent signifier pour moi tous ces petits soupirs qui gonflent votre poitrine parfumée, robuste et coquette. Et toutes ces affections apprises dans les livres et cette infatigable mélancolie faite pour inspirer au spectateur un tout autre sentiment que la pitié. En vérité, il me prend quelquefois envie de vous apprendre ce que c'est le vrai malheur. À vous voir ainsi, ma belle délicate, les pieds dans la fange et les yeux tournés vaporeusement vers le ciel, comme pour lui demander un roi, on dirait vraisemblablement une jeune grenouille qui invoquerait l'idéal. Si vous méprisez le soliveau, ce que je suis maintenant comme vous savez bien, gare la grue qui vous croquera, vous gobera et vous tuera à son plaisir. Tant poète que je sois, je ne suis pas aussi dupe que vous voudriez le croire. Et si vous me fatiguez trop souvent de vos précieuses pleurnicheries, je vous traiterai comme une femme sauvage, ou je vous jetterai par la fenêtre comme une bouteille vide.
Thank you. Au XIXe siècle, la masturbation était considérée comme une des causes potentielles de l'hystérie féminine, par certains médecins peu avant-gardistes. Dans l'imaginaire collectif, l'hystérie peut renvoyer à une réaction conséquente à l'acte sexuel solitaire. Vite fait, on fait le raccourci, une femme libérée des mœurs sexuelles et se donnant du plaisir, rapidement étiquetée comme hystérique ou épileptique. Certains chirurgiens de l'époque recommandant même l'excision ou la clitoridectomie. Si le clitoris se révèle à une source d'excitation permanente, on doit le considérer comme malade et son ablation devient licite. En Angleterre, dans les années 1860, en Autriche, en France, à la fin du 19e siècle, puis aux États-Unis début 20e, l'ablation du clitoris se pratique donc. C'est charmant. Jusqu'en 1952, dans la première édition par l'Association américaine de psychiatres du manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, des comportements sexuels comme la masturbation, l'homosexualité, la fellation, le cunnilingus et le nomadisme sexuel sont classés au rang de troubles pathologiques et de maladies mentales.
Le médecin Isaac Baker Brown s'est ainsi fait une spécialité de la clitoridectomie. Entre les années 1859 et 1866, avant qu'il soit rayé de la société d'obstétrique anglaise, mais d'ailleurs plus parce qu'il pratiquait au ciseau l'ablation du clitoris et des petites lèvres sans vraiment demander leur avis à ses patientes, que pour la cruauté de l'opération elle-même. Il se murmure d'ailleurs que ces femmes n'étaient pas folles ni spécialement excitées, mais qu'elles avaient envie de profiter d'une nouvelle loi anglaise sur le divorce et qu'une petite visite chez le docteur Brown avait souvent un effet dissuasif. On comprend pourquoi. Au chapitre des remèdes étranges à la masturbation, on signale aussi la prescription de l'état de grossesse, prescription qui visait à rétablir le corps de la femme dans son rôle primordial, la reproduction.
Étonnez-vous que les hôpitaux psychiatriques soient bondés? Si j'ai pu apprendre une seule chose dans ma si courte vie, c'est ceci, ne réfrénez jamais quoi que ce soit. Je crois que l'obsession de Freud pour le sexe provient sans aucun doute du fait que lui-même ne pratique guère. Pour moi, la mesure de la profonde perversité de notre espèce, c'est que l'une de ses seules sources fiables de plaisir soit depuis toujours l'objet d'une pareille hystérie, d'une pareille censure.
Mais ne pas réprimer ses envies, c'est donner libre cours à toutes sortes de forces dangereuses et destructrices.
On est libre ou on ne l'est pas.
À travers l'histoire des femmes et le corps féminin, on retrouve Michelet, dont les citations sont toujours aussi délectables.
La femme est-elle responsable ? Sans doute, elle est une personne, mais c'est une personne malade, ou pour parler plus exactement encore, une personne blessée chaque mois qui souffre presque constamment de la blessure de la cicatrisation.
Au Moyen-Âge, les hystériques telles que les sorcières, les marginales ou les folles étaient considérées comme possédées par le diable et souvent brûlées. La célèbre affaire de Loudun à la fin du XVIIe siècle donne une idée de la peur que suscitaient ces femmes et implicitement tout ce qui se rattachait à leur sexualité. Les sœurs du couvent d'Ursuline étaient, paraît-il, possédées par le démon pendant leur crise de délire et s'inscrivaient dans une grande vague de possession démoniaque hystérique. Le corps féminin est par nature faible, fragile, maladif. C'est une idée ancienne qui trouve son expression dans les innombrables traités sur les maladies des femmes, qui nous, signale-t-elle, connaissent une nouvelle jeunesse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Alors même que les mots ou les sciences de la gynécologie et de l'obstétrique étaient apparues.
En outre, Elsa Dorlin, philosophe et féministe contemporaine, rappelle que la médecine a créé des maladies spécifiques aux femmes de toute éternité. On pense bien sûr à la fureur utérine et à la suffocation de la matrice, maladies spécifiquement féminines, en ce sens qu'elles prennent naissance dans le corps de la femme et dans ses organes sexuels ou de reproduction. On observera alors que ce sont des maladies mentales. Connue et reconnue, l'hystérie n'est toutefois pas la seule maladie mentale sexuée d'origine sexuelle. On citera également la folie d'allaitement. On imaginait alors que le lait montait littéralement à la tête des femmes allaitantes, sans doute plutôt épuisées et anémiées par les grossesses successives et la malnutrition. À travers l'utérus et le sein, se crée une association entre la psyché, le genre, la sexualité, au point que l'on peut parler de folie génitale. Lisa Apignanesi est une auteure britannique née en Pologne qui a fait ses études à Paris et à Montréal. Comparatiste, elle a d'abord consacré ses recherches à la littérature et singulièrement à la féminité. Freud's Woman, paru en 2000 et coécrit avec John Forrester, constituait une première exploration du lien entre femme et santé mentale, ou plutôt absence de santé mentale. Apignanesi reprend les statistiques qui montrent que la femme le semble prédestinée à la maladie mentale, en tout cas que la proportion des femmes soignées pour une affection psychique est écrasante. Elle semble dire que de nombreuses affections psy pourraient être soignées non par une thérapie coûteuse ou une médication à outrance, mais par l'amour, l'amitié ou un bon bol d'air. Elle émet également une hypothèse séduisante qui est que la santé mentale est peut-être le dernier rempart contre la globalisation et l'uniformisation.
On peut rapprocher ces hypothèses de la pensée du courant antipsychiatrique. Alors l'antipsychiatrie, c'est une théorie qui s'oppose à la psychiatrie classique et interprète plutôt la maladie mentale dans une perspective sociologique. L'institution psychiatrique traditionnelle faisant la plupart du temps fi des variables sociales, sociétales, morales, philosophiques ou politiques, supprime par là même la subjectivité de l'état mental, sain ou pathologique. Pour certains, la psychiatrie est une institution non pas médicale, mais plutôt politique et ou religieuse médicalisée, s'attachant à résoudre non pas les problèmes ou les maux des patients qu'elle traite, mais bien les problèmes posés à la collectivité par le comportement de ces mêmes patients, et ce au moyen de procédés coercitifs, internement, traitement, mensonge. L'asile devrait disparaître et les malades retrouver tous leurs droits de citoyens dans une société qui pourrait les accueillir, prendre en compte leur potentialité créatrice.
On peut citer Michel Foucault, généralement connu pour ses critiques des institutions sociales en apparence neutre, principalement la psychiatrie, la médecine et le système carcéral. D'ailleurs, c'est fou qu'on ne l'étudie pas un peu plus parce qu'il est vraiment, il a vraiment fait des recherches intéressantes. Son travail, de point de vue de l'ensemble, se présente comme une immense histoire des limites tracées à l'intérieur de la société et qui définissent les seuils à partir duquel on est fou, malade, criminel ou déviant. Les clivages internes de la société ont une histoire sans cesse remise en cause. Je ne me perçois moi-même que selon les critères formés par l'histoire. C'est donc Michel Foucault. Le pouvoir n'est pas une autorité s'exerçant sur des sujets de droit, mais avant tout une puissance immanente à la société qui s'exprime dans la production de normes et de valeurs. On va donc vous lire un extrait d'un entretien avec Michel Foucault qui s'appelait « L'extension sociale de la norme ».
Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général. En gros, celui de la norme. Ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre, une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic. La norme devient le critère de partage des individus. Du moment que c'est bien une société de la norme qui est en train de se constituer, la médecine, en tant qu'elle est la science par excellence du normal et du pathologique, va être la science reine. Il me semble que le pouvoir de la religion, du Moyen-Âge à l'époque classique, était de type juridique, avec ses commandements, ses tribunaux et ses pénitences. Plutôt que d'une succession religion-médecine, je verrais plutôt une succession droit-norme. Si la folie a une réalité spécifique, qu'il ne s'agit pas de pathologiser ni de médicaliser, alors qu'est-ce que c'est la folie ? L'antipsychiatrie a justement à se confronter à ce quelque chose qu'il ne faut pas coder en termes de maladie mentale ni en termes de normativité sociale, mais qui, cependant, fait problème. L'antipsychiatrie démolit à l'intérieur de l'institution et de la conscience des médecins la médicalisation de la folie. Mais de ce fait même, la question de la folie nous revient après cette longue colonisation par la médecine et la psychiatrie. Qu'en faire ? Les discours hâtivement gauchistes, lyriquement antipsychiatriques ou méticuleusement historiques ne sont que des manières imparfaites d'aborder ce foyer incandescent. Avec l'illusion, parfois, que, de là, la vérité, nos pauvres vérités pourraient s'éclairer d'une flamme dévorante. Cette illusion de croire que la folie ou la délinquance ou le crime nous parle de partir d'une extériorité absolue. Rien n'est plus intérieur à notre société, rien n'est plus intérieur aux effets de son pouvoir que le malheur d'un fou ou la violence d'un criminel. Autrement dit, on est toujours à l'intérieur. La marge est un mythe, la parole du dehors est un rêve qu'on ne cesse de reconduire. On place les fous dans le dehors de la créativité ou de la monstruosité. Et pourtant, ils sont pris dans le réseau. Ils se forment et fonctionnent dans les dispositifs du pouvoir. «
votre porte. Des gens se laissent emporter, accablés de soucis, rongés par le stress. Pour ces apôtres du malheur, je balance une messe. En victime d'une époque qui cloche avec leur mental, ou victime de chocs qui leur ont brisé le moral. Ces disciples du silence parcourent les villes à la recherche d'un peu de compassion, pas de futile. Quand ils tendent la main pour une simple pièce, lisez dans leurs yeux et voyez ce qu'ils encaissent. Toute la misère du monde, les bras levés pour prier, mais les deux pieds dans la tombe. Indifférent avec la vie, les a soudés au bitume. L'indifférence dans la nuit les enverra dans la fosse comme une donque. Ne me parlez pas de compassion authentique, ou j'en deviens hystérique. Oh, j'en ai plus en équilibre sur le fil. Un self-control de plus en plus difficile. Sur le fil, d'un self-control de plus en plus difficile. Cela se passe loin de chez vous, ouais, loin du côté de Singapour, là où l'on cultive le riz comme l'on cultive l'amour. Quand les pachas débarquent, commence l'horreur. Les nuits s'enchaînent et se cadencent au rythme des pleurs. Des femmes violées, d'enfants que l'on achète pour le plaisir de pourri que je tuerai à coups de machette. L'État ferme les yeux, le commerce est rentable. Même si la misère s'étend, le tourisme est stable. Sur les affiches, il fait beau, le soleil et la mer. Mais la réalité, frère, ressemble plus à la misère. Plus l'on avance, plus l'on bascule vers une humanité qui recule. La croisade du mal ne fait que commencer. Le capitalisme ne fait que creuser le fossé. Donc ne me parlez pas de compassion authentique, ou j'en deviens hystérique. J'en veux plus en équilibre sur le fil. Un self-control de plus en plus difficile. J'en veux plus en équilibre sur le fil. Difficile. Cela se passe chez vous, dans la cour au fond de l'impasse. Ils parlent avec vos enfants et leur proposent une glace d'un parfum magique pour décoller de la terre. Mais la came diabolique est un billet pour l'enfer. Il rentre de plus en plus tard, il n'a que 15 ans. Les yeux dilatés par le venin qui coule dans son sang. Il ne va plus à l'école, braque pour sa défense, pendant que sa daronne picole et son daron pionce. Autour de lui les couleurs s'effacent, dans un monde de gris pour lui le blanc occupe toute la place. Il est trop tard pour faire demi-tour. Ha. Pleure ton monde car il vit son dernier jour. Hey, donc ne me parlez plus de compassion authentique, ou j'en deviens hystérique. Et un jour de plus en équilibre sur le fil. Self-contrôle de plus en plus difficile. Un jour de plus en équilibre sur le fil. Un self-contrôle de plus en plus difficile.
Et tout de suite pour vous, une petite lecture d'un poème d'Emily Dickinson. Poète américaine qui a écrit beaucoup sur la mort, l'hystérie, la folie, enfin que des choses très gaies en fait.
À peu près à la même époque que les hystériques de Freud,
voilà.
De Charcot.
Ouais. Voilà, le 19e siècle. À toi.
J'entendis une mouche bourdonner quand je mourus. Le calme dans la chambre était comme le calme dans l'air entre les soubresauts de l'orage. Les yeux alentour, essorés, secs, et le souffle retenu. Pour le dernier assaut, lorsque le roi apparaîtrait dans la chambre. Je léguai mes menus objets et donnai cette part de moi qui peut se donner. Et c'est lors qu'une mouche s'interposa, avec un bourdonnement bleu, incertain, trébuchant, entre la lumière et moi, et puis les vitres s'évanouirent, et puis je n'y vis plus pour voir. Voilà, c'était plus court que les autres poèmes.
Pour votre plus grand bonheur.
Voilà.
Donc au cours de l'émission, on a pu entendre des extraits d'un docu Arte sur les débuts de la psychanalyse, ainsi qu'un extrait du film Dangerous Method, qui parle de la relation entre Jung et Freud à l'époque. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, même si on aurait pu continuer très très longtemps.
Et donc, on se verra le mois prochain. Enfin, on s'entendra le mois prochain. Ce sera la dernière émission avant le grand blackout estival, donc à pas manquer. Hein. Et on se quitte en musique, bien sûr.
Bye bye et déprimez pas trop. Hein.
À bientôt.
Le royaume de l'hystérie naîtra une terre sale et stérile. Une vieille loi des séries instaure haine, rage et péril. Les politiques font croire tout et son contraire. Dans ce monde où les journalistes et les clowns sont confrères. Dans leurs débats sur le prix des balles, on ne parle que d'éphémère. Une élite millionnaire crée les armes, forme les mercenaires pendant que les gens se meurent. Leurs chefs sont charmés par sculpte des richesses qui jettent des mômes aux charniers. Les ministères nord tuant ses propres pauvres paniers en libérant l'ordure qu'une forte somme peut épargner. Pendant que dans le sud, les gens suent perdant de vue un semblant de grande vie car le sans prix n'est pas rendu. Le mal déambule de part en part depuis le préambule d'une histoire qui sépare ce qui part et se rester en bulle. Plus de respect en plus, l'église érige en culte mariage et Marianne en buste qu'ils déguisent en pute. La république, je m'y reconnais pas car c'est le palais du vice. Ce n'est que là-bas, là-bas au bout de la canne à pêche aux frics et qui parade. Des flics et des paras parés à commettre l'irréparable, irrépérable et rapide à omettre. Car ils ont plus qu'appris l'art du pas vu pas pris. J'emmerde tout leur parti et pris d'amour pour la patrie. Ça tue, ça trie par couleur de drapeau pour rester pur, ça prie. Ça pleure, ça crie parce qu'on a peur, parce qu'elle est dure la vie sans comprendre. Qu'on récolte laine, qu'on plante, seule constante, trop se contente des quelques miettes que c'est contente. Je dramatise pas, je constate qu'on réalise pas le contraste, qu'on analyse pas, qu'on se cache, que l'avarice a bonne place parmi des hommes par qui le désordre abîme la vie des autres. Ici, dans ce monde avide où le nom de la Bible agite les hordes, au lieu de tolérance, un processus de préférence a lieu. Au milieu de trop d'errance et de l'abus de référence à Dieu, en paquet de privilégiés, on se comporte en enfant gâté. Des portes devant des pauvres à la porte qu'on entend gratter, ça fait assez. Quand ta justice voit mal ou dort, ce flic bourré, c'est bourré de toi, donner le droit de vie ou de mort. Haute pierre, mur frontière, fermeture hors pair. Autre air, mêmes ordures humaines, mordu de grosses guerres. Grasse gorge à l'affût de grosses barres, usage de la force, image de la mort. Résultat de ce qui part de la forge, industrie d'armes. Des barbares abrutis esclaves, inutiles graves. Là où leurs profits produisent d'inutiles drames. Leurs sous-fifres, acquis au crime, accro de patriotisme. À l'heure où la partie aussi, vers le pire gâchis possible. Ainsi donc, nous voici assis face à la faucille de masse. Nous félicitant sur la puissance atomique de l'arme. Plus le temps passe, plus on s'entasse dans cette impasse immense. Où nos poumons s'engrassent, où c'est l'espace qui manque, où c'est les papes qui mentent, couvrant le péché lancinant, regardant la mort en silence, en prêchant l'abstinence de l'esclavage au crime nazi. Leurs actes oppriment la vie, pris de manie, d'oubli tacite devant une foule que ça ravit. J'emmerde le clerc, j'ai la noblesse, leur cierge et leur blason, leur fière démonstration d'une richesse ou leur poison. Une foi faite d'argent, de gens qu'on oppresse, c'est trahison. Étoiles croissant et croissant, ce pourquoi nous haïssons, nous habitons sur une planète parfaite et la niquons, nous n'agissons. Que pour paraître hélas si con, esclave d'idoles qui s'asticote pour des tas de bricoles. État si pauvre, établi de force, nos éclats ricochent. Je déclare ignoble, pas ce monde mais ce qu'on en fait. Comme quand déborde mes rimes, c'est bordélique et condensé. Du concentré, de rage à l'état pur, sauvage comme les talons. Le passé fait sa pute, il y a du sang sur ses talons. Pardon, le présent fait sa pub et ne représente que ses patrons. Pendant que le futur n'est pas sûr et ne dépend que des passions. Façon humaine et que de passage, lui-même et son carnage. Il fait lui-même en pleine lumière, une merde, rêve de bavardage.